racing or watch it.
La dispute. Ce soir, les arts plastiques. Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Jean-Christophe Briançon, Boris Pinault, Grégoire Difior et Camille André. Prise de son assurée ce soir par Élise Le, réalisation Daniel Fineau. Autour de moi ce soir, Anaël Pigeat, Sandra Dancourallé, Florian Guettet. À notre affiche, Médusa, bijoux et tabou, c'est au musée d'art moderne de la ville de Paris. Christian Dior, couturier du rêve au musée des arts décoratifs. Et Hélène Delprin, I did it my way, à la Maison Rouge. Présente également ce soir à mes côtés, Aïssa Tundoy qui va surveiller le fil Twitter Dispute FC pendant ce direct pour donner à entendre vos commentaires si vous avez vu ou envie de voir d'ailleurs les expositions dont nous allons parler. Puis toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des places de cinéma pour Napalm, le nouveau film de Claude Lanzmann qui est sorti aujourd'hui dans les salles et dont nous parlerons vendredi dans la dispute. Une dispute art plastique avec de forts relents de mode ce soir, puisque nous allons parler tout à l'heure de Christian Dior et que nous ouvrons avec Médusa, bijou et tabou, au musée d'art moderne de la ville de Paris, une exposition qui a ouvert avant l'été, mais dont nous n'avions pas eu le temps de parler la saison passée, mais comme elle dure jusqu'au 5 novembre, cela laisse le temps au plus grand nombre d'aller la voir et à celles et ceux qui l'ont déjà vue de réagir sur le fil Twitter Dispute FC. Une exposition sur les bijoux a-t-elle sa place dans une dispute art plastique? Alors, on va voir, ça questionne surtout les a priori. J'étais personnellement émerveillé, intéressé, assez fasciné aussi par une exposition pléthorique qui présente pas moins de 400 bijoux. Je n'ai pas compté, hein, c'est le dossier de presse qui me donne son indication. Il faudrait peut-être aller vérifier. Et puis une exposition qui rappelle, si besoin était, le statut ambivalent des bijoux, parures, sculptures, bien sûr. De la préhistoire au joaillier contemporain, il y avait de quoi faire, en effet. Beaucoup de designers aussi, de très nombreux artistes, on s'y intéressera évidemment, qui se sont prêtés à l'exercice de la création de bijoux. Une exposition riche. Très riche, qu'on peut voir et revoir, j'imagine. C'est Andresen qui est la commissaire de Médusa. Alors, un premier tour de table. Sandra, vous n'avez pas de bijoux tellement sur vous. Hein, mais vous
pas trop, pas aujourd'hui.
Médusa, premier tour de table.
C'était mon coup de cœur, je crois, en mai ou en juin.
C'est peut-être grâce à vous que je l'ai été la voir. Hein.
Chez vous. C'est une exposition que j'ai revue, du coup, pour l'occasion, que j'ai trouvée toujours aussi jubilatoire et incroyable. Avec des objets de toutes sortes. C'est une exposition transversale, vous l'avez dit, qui mélange les siècles, les cultures, les genres, et qui s'empare en fait des catégories en fait souvent négatives associées aux bijoux, le trop précieux, le trop féminin, etc., pour interroger son rôle dans la société. Le bijou devient un vecteur d'identité, le bijou devient un troubleur d'identité. Voilà, il y a un très beau titre à cette exposition puisque ça s'appelle Médusa. Et comme Médusa dans la mythologie grecque, on comprend que le bijou attire donc et trouble celui qui le conçoit, le regarde ou le porte.
Voilà un beau préambule. Florian Guettet, premier regard sur Médusa.
Mais alors peut-être partir de ce titre qui est effectivement très accrocheur, comme peuvent l'être les bijoux, et finalement effectivement ça rappelle le bijou à cette force d'attraction, de séduction, qui peut aussi glisser sur le fétichisme un peu plus mercantile. Et moi c'est un titre qui m'a interrogé parce que je me suis demandé s'il était vraiment si bien choisi que ça. Ah. Parce que être médusé, c'est finalement être pétrifié dans les froids, dans la terreur, mais c'est surtout presque fuir en tant que sujet vivant. Et moi il m'a fait l'expérience de cette musée, cette exposition m'a fait l'effet parfaitement inverse, à savoir que, au contraire, je me suis senti très actif, très responsable, et notamment par rapport à mes a priori. Mmh. C'est-à-dire que, en tant que critique, je dois avouer que j'avais des a priori sur le bijou, une sorte de parti pris anti-ornement ou ornementaliste, et que cette exposition m'a permis de dépasser, en l'ouvrant à d'autres fonctions, en voyant effectivement l'intérêt et les croisements qu'on peut faire avec les arts plastiques. Alors, il faut dire aussi qu'elle est servie par une scénographie assez astucieuse, vraiment audacieuse, avec beaucoup de choses, même si je suis pas convaincu par tout, on y reviendra. Mais ça nous permet quand même de faire une sorte de parcours à la fois ébloui et éblouissant, de mettre en lumière en fait des fonctions, quitte à parfois mettre un peu trop en lumière et avoir un effet peut-être aveuglant sur ce qu'est la valeur intrinsèque du bijou.
À propos de scénographie, alors soit je pas encore les bonnes corrections pour mes lunettes, mais il me semble que ça avait déjà été le cas pour une précédente exposition du Musée d'Art Moderne de la ville de Paris. J'ai pas trouvé le nom du au-delà scénographe. Vous l'avez, vous?
Non,
vous ne l'avez pas. Donc, je tape sur les doigts du Musée moderne de la ville de Paris. Coutumier du fait, la réussite d'une exposition, on pourra en reparler aussi pour Saint-Laurent, pour Dior, tout à l'heure, mais enfin, pour toute exposition aujourd'hui qui se respecte, c'est quand même d'indiquer qui en signe la scénographie. Toutes les institutions ne le font pas. Je trouve que c'est quand même très regrettable. Je poursuis ce premier tour de table, après ce petit coup de griffe, avec Anaël Pigeat.
J'étais très émerveillée aussi par cette exposition. J'y reconnais la singularité de la patte d'Anne Dressen, qui est là, entourée de deux autres commissaires, Michel Lezay et Benjamin Lignel. Cette exposition s'inscrit un peu dans la suite de ce qu'elle avait fait pour Décorum, qui était cette exposition sur les tapis et les tapisseries, pour laquelle elle avait demandé à Marc-Camille Scheimowitz de faire la scénographie, enfin de travailler avec elle à la scénographie de l'exposition, l'artiste.
Et là, on a le nom. Non, pardon, allez, j'arrête.
Oui, bon. La scénographie là est aussi tout à fait réussie, je trouve, parce qu'elle scande vraiment très bien les quatre chapitres de l'exposition. Identité, valeur et contre-valeur, le corps et le rituel. Il faut dire aussi qu'il y a quelque chose de la prouesse de montrer... Effectivement, c'est très surprenant de montrer des bijoux dans un musée d'art moderne et contemporain. C'est une prouesse pour ce qui concerne les prêts et c'est une prouesse pour ce qui concerne aussi les vitrines. Et là, la manière dont les vitrines ont été dessinées...
Et disposées
pour montrer dans la première partie, donc qui est sur l'identité... Une dimension comme ça, un peu amateur, de cabinet, on se penche sur les vitrines pour regarder ces objets précieux de très près. Et puis dans la deuxième partie, ce sont des coffres-forts qui indiquent les valeurs et les contre-valeurs. Coffres-forts qui plus est sont retournés, c'est-à-dire qu'on se cogne d'abord au dos de la vitrine et il faut en faire le tour pour voir ce qu'il y a dedans. Et puis ensuite, les vitrines s'ouvrent et sont plus larges et plus grandes. Pour revenir au contenu de l'exposition, ce qui m'a beaucoup émerveillée, c'est le côté extrêmement humain. En fait, c'est un grand portrait de la vie humaine que nous propose cette exposition. En interrogeant à travers le bijou, ce qui moi aussi m'a surprise, je pensais pas que c'était possible de cette manière, en allant à l'encontre de toutes les idées reçues finalement, à beaucoup d'égards sur la question des matériaux, les matériaux riches, les matériaux pauvres, sur la question du genre, le bijou masculin, le bijou féminin n'est pas celui qu'on croit, enfin, la question de la domination, enfin, le bijou n'est pas forcément, la féminisation du bijou est une chose récente, en fait, c'est ça qui est le propos de cette partie-là. Sur le vrai et le faux, l'original et la copie, qui sont aussi des thèmes chers à Andresen, évidemment. Et même sur les catégories de bijoux, qui est un univers que, j'avoue, je ne connaissais absolument pas, et qu'on voit se dessiner là, à travers le bijou d'artiste, le bijou contemporain, la haute joaillerie, etc. Le bijou fantaisie aussi, le bijou anonyme.
Après ce premier tour de table, un petit détour par vous, Aïssa Tundoy, parce que bon, outre Olivier Blanquart qui fait des private jokes suisses concernant cette exposition, le curieux des arts se déchaîne. Hein.
Il se déchaîne, il estime que c'est la plus mauvaise exposition qu'il ait vue depuis 20 ans, il ne comprend pas le pourquoi, le propos. Il ajoute que cette exposition n'a absolument pas sa place au musée d'art moderne de la ville de Paris.
Mais l'aurait davantage aux arts déco.
Tout bon, à fait. Et il continue.
Il continue, oui, il n'est pas content. Nul de nul. Enfin bon, on ne va pas le citer toute la soirée, mais l'idée c'est que quand même il y a des gens à qui cette exposition en déplut, donc on fait entendre aussi ce son de clash, Anaëlle.
Non, c'est assez amusant. Je rebondis juste là-dessus de voir les vitrines de bijoux des arts déco qui sont extrêmement différentes, enfin du musée des arts décoratifs, qui sont extrêmement différentes de la manière dont les bijoux de Médusa...
Oh là là, je... Oui, oui, si, on comprend, on fera la comparaison dans un instant. Retour vers vous, Sandra, dans quoi aller.
Je suis assez d'accord avec Anaëlle sur l'idée que c'est une expo de société, en fait. C'est-à-dire que le bijou est symptomatique de nombreuses choses. Et justement, je reviens sur ce que disait Florian, je trouve que le titre est bien choisi, dans le sens que Médusa, attire et trouble. Et en fait, chaque partie, donc identité, valeur, etc., est construite de la sorte. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on part de quelque chose d'évident, par exemple la valeur, l'histoire officielle du bijou et celle d'une élite, par exemple. Et ensuite, contre-valeur, elle montre dans l'exposition les bijoux de fantaisie, les bijoux contemporains qui affirment des valeurs alternatives. Donc chaque fois, justement, je trouve qu'elle part de cette question de l'attirance, d'une définition, d'un statut social pour ensuite montrer que le bijou déjoue, trouble justement ce statut.
Oui, chacune des séquences de l'exposition fonctionne comme ça, sur le rite et fonction. Enfin, il y a plusieurs entrées à chaque salle. Je répète que moi aussi, alors on se dit pas beaucoup, nous quatre ce soir sur cette exposition qu'on a tous apprécié pour des raisons différentes. Anaëlle, déjà, pour répondre.
Ce que disait Sandra. Dans cette manière de déjouer comme ça tout ce qu'on attend, il y a aussi beaucoup d'humour dans cette exposition. Et ça c'est très jubilatoire aussi. L'humour dans le mélange des genres, dans l'association d'objets un peu inattendus. Le collier de Louise Bourgeois, par exemple, qui est montré, qui est une sorte d'anneau en métal, enfin de double, deux morceaux de métal qui forment un anneau, qui est montré à côté d'une ceinture de chasteté. Et voilà.
Et vous retrouvez vos notes.
J'oublie le troisième. Je crois que c'est un collier d'esclaves, mais j'ai un doute. En tout cas, donc ça, il y a les bad luck charms. Les charms, c'est les petits pendentifs qu'on met sur les bracelets, qui habituellement sont des objets très précieux et dont Danny McDonald transforme en mégots de cigarette ou en vieux chewing-gum mâchouillé. Il y a toutes sortes de jeux. Il y a aussi
les colliers en bonbons aussi.
Il y a les colliers en bonbons. Il y a le collier de nouilles. Et il y a une autre chose qui m'a fait beaucoup rire, c'est dans le catalogue. Une des entrées du catalogue qui est fait comme une sorte d'index comme ça avec des pages.
Avec énormément de contributions d'auteurs différents.
Et il y a une page blanche pour la perte.
Ben oui, on a tous perdu un bijou. Ou pas, enfin bon, bref, de toute façon.
On a surtout été très traumatisés.
On évoque, vous avez évoqué Louise Bourgeois, c'est vrai, Florian Guettet, peut-être la chose la plus attendue dans l'exposition Bijoux au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris, c'est de savoir comment les artistes des arts plastiques s'étaient emparés de cet objet-là. Il y a des réponses extrêmement variées là aussi.
Alors la diversité, c'est déjà un maître mot, je trouve, cette façon d'organiser même l'exposition, puisque tout est fait sur un organigramme avec des entrées qui sont certes toutes intéressantes, et notamment dans le catalogue qui est lui-même un petit bijou, si on m'autorise ce jeu de mots-là. Mais par contre, dans les salles de l'exposition, je suis pas sûr que ça marche aussi bien. Il y a effectivement beaucoup de ruptures, beaucoup de sauts, beaucoup de parcours un peu sinueux, avec du coup des associations pas très attendues. Je pense notamment à une Salomé de Moreau qui est à côté d'une remise de Légion d'honneur de Chirac.
Oui, c'est vrai, je me suis fait la réflexion, j'ai pas bien compris.
Voilà. Donc. Pour répondre à votre question, Arnaud, les réponses qu'apportent les artistes à ce rapport aux bijoux sont aussi variées finalement que ces intentions-là ou que ces fonctions qu'on peut leur prêter. Alors il y a ceux qui jouent vraiment le jeu de l'orfèvrerie, de la joaillerie, avec notamment les collections Montebello, qui ont repris des Fontana, Il y avait des Niki Tsinfal, si je me souviens bien, des Man Ray. Et donc là, on est vraiment dans la tradition finalement du bijou. Et moi, ce qui m'a plus intéressé, c'est vraiment la plasticité du bijou quand le bijou n'est plus portable. Et là, on a toute la dernière partie, notamment, qui est donc sur ce rapport au corps. En fait, c'est presque un non-rapport au corps, puisque c'est beaucoup sur l'importable, voire l'insupportable, avec des contributions là qui sont beaucoup plus drôles, effectivement, beaucoup plus dangereuses. Je pense au collier de goulot de bouteille de Schlinger. On peut penser au cockring chenio de Verna qu'on a dans une sorte de petit cabinet curiosité à côté dans une salle plutôt BDSM. Le disgracieux, très disgracieux bijou d'entrejambes de Sari Ratel, que j'ai trouvé aussi particulièrement difficile à regarder. Des choses peut-être plus avec une sorte de réinterprétation de ce que peut être l'arte povera ou de ce que peut être le pop art aussi, avec des réutilisations de matériaux du quotidien, notamment le collier de Jimmy Durham qui est fait avec des composants électriques, les bijoux aussi d'Annie Albers qui sont faits de trombones, de grilles d'évier qui ont été en fait façonnés dans une sorte d'atelier au Black Mountain College, des choses comme ça qui sont qui font sortir finalement le bijou de son assise, de son écrin. Et d'ailleurs il y a cette très belle pièce, enfin, moi c'est sans doute une des pièce qui m'a préférée, qui n'est pas une pièce, qui est cette installation d'écrins vides qui sont présentés sur une table et qui font une sorte de composition assez picturale, un peu moderniste, qui réfléchissent ou qui dialoguent, pardon, très bien avec les bustes et bascules de vitrine de Clément Rodzielski qui lui les détourne en sculpture minimaliste ou plus précisément post-minimaliste puisqu'il va peindre les coupes, les endroits des coupes. Et là on se retrouve complètement dans un musée d'art, pour répondre aux curieux, où là vraiment ça n'aurait pas sa place dans le musée des arts décoratifs. On est vraiment dans une sorte de conversion plastique de ce que peut être le bijou, et je trouvais ça absolument fascinant.
Oui, c'est vrai. Enfin, c'est une des parties de l'exposition, effectivement, comment la parure devient sculpture et dont s'emparent effectivement les artistes. J'ai beaucoup aimé, moi aussi, l'œuvre pas loin des boîtes, des écrins de David Douard avec le grills de rappeur qui permet de modifier l'élocution, la grande chaîne de Thomas Hirschhorn. Voilà, c'est assez jubilatoire. Moi, la seule chose qui ne m'a pas plu, en fait, enfin, qui ne m'a pas plu, là, le seul petite chose que je dirais sur cette exposition, c'est qu'effectivement, je vous rejoins par rapport au catalogue, c'est une démonstration qui marche un petit peu moins bien dans l'espace que dans le catalogue, c'est-à-dire qu'il y a un côté très un petit peu scolaire, je pense, diront certains.
Les cartels sont carrément un organigramme.
Exactement, puis il y a des parties, sous-parties, c'est un tout petit peu scolaire. Néanmoins, il y a des objets tellement incroyables, et moi ce que j'aime justement, c'est ce mélange entre le gant de Michael Jackson, des objets érotiques, Et une œuvre du dernier artiste contemporain à la mode que pourrait être Jean-Marie Apriou. Donc ça compense le côté scolaire pour un peu de... Il y a un peu de folie quand même.
Alors il y a beaucoup, beaucoup de choses dans cette exposition, mais il y a quand même des manques à Issa Twendoy.
Un message de Francis Fichot, qui regrette vivement que l'éditeur de bijoux Le Buisson, insolent et rare selon lui, ne soit pas présent dans cette exposition.
Annelle Pijat.
Oui, mais c'est sûr que on l'évoquait tout à l'heure, cette exposition fait vraiment découvrir un monde qui est celui du bijou contemporain. Il y a énormément de designers, de créateurs de bijoux que moi j'ai découvert et que je crois beaucoup d'entre nous, familiers du musée d'art moderne de la ville de Paris, ont découvert. Et effectivement, celui-ci n'est pas présent. Il y en a certainement d'autres qui ne le sont pas. On peut dire à l'inverse qu'il y a un nombre d'œuvres très colossal dans l'exposition et que peut-être même il y aurait pu y en avoir un petit peu moins, encore que c'est une invitation à la flânerie et qu'on fait son chemin dans l'exposition qui présente ce dispositif très sophistiqué à la fois de scénographie et de lecture et dans lequel on se promène comme on en a envie, dans ce mélange de légèreté et de profondeur, et surtout de profondeur, en fait.
Florian Gaité.
Oui, puis pour ajouter un mot sur ce rapport avec les arts, il y a quand même une vingtaine de sculptures et d'installations qui ne sont pas des bijoux, qui sont vraiment des œuvres à part entière, avec pour le meilleur Nick Moss, moi j'ai adoré, c'est une sorte de croquis, un peu de mode, fait sur des miroirs, ou un armader plein de paillettes, et la première fois que je voyais un armader avec des paillettes. Il y a aussi une vidéo de Fabrice Gigi, que j'ai beaucoup aimé, d'une performance de Fabrice Gigi. Et puis, bon, il y a quand même des choses qui m'ont un peu plus déçu là-dessus. sur ce choix de d'œuvres complémentaires. Je suis pas sûre d'ailleurs qu'il fallait vraiment en rajouter. Mais par exemple la Spider-Woman de Lovecraft qui finit l'exposition me paraît hyper littérale et pas très utile en tout cas au propos. La sculpture en décoration de Noël de Marie Angeletti, pareil, je trouvais ça assez anecdotique à côté. Et du coup, c'est vrai que ça a tendance à amoindrir la préciosité de ce qu'on a, de ce qu'on a autour. Donc voilà, mon petit bémol, il est là.
Bon, ben voilà, on finit sur des bémols, mais avec beaucoup de plus concernant cette exposition Médusa, bijoux et tabou au Musée d'art moderne de la ville de Paris à découvrir jusqu'au 5 novembre. Et donc ce catalogue de l'exposition édité par Paris Musée avec beaucoup de contributions puisque beaucoup d'entrées en effet par rapport à cette thématique. À suivre dans la dispute Christian Dior et Hélène Delprat, c'est un beau couple. Si vous avez là aussi des avis à partager, n'hésitez pas à le faire en suivant le fil Twitter Dispute FC.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
Oui, le deuxième sujet à l'affiche de cette dispute art plastique et fashion. Hein. Depuis le temps, je vais faire une dispute lifestyle le samedi. Hein, je le répète, ma direction bien aimée. Ce soir, Christian Dior, couturier du rêve. C'est le titre de l'exposition à voir au Musée des Arts Décoratifs à Paris jusqu'au 7 janvier. Donc une autre façon d'interroger la conception d'une exposition consacrée à un créateur de mode. On rappelle quand même que Christian Dior est né en 1905, mort en 1957. 10 ans après avoir créé sa maison de couture, il a d'abord été galeriste, illustrateur. Il a été créateur de costumes pour le théâtre, pour le cinéma. Il a travaillé dans de célèbres maisons de l'époque, années 30, années 40. Robert Piguet, Lucien Lelon, qui dit peu de choses à la plupart des gens, beaucoup aux spécialistes de mode, mais tout de même. Et c'est après-guerre qu'il convainc le richissime Marcel Boussac, le pape du textile français, d'investir dans son talent. Il le fait grandement. Il lui offre d'ailleurs le 30 avenue Montaigne comme écrin, ce qui est pas mal. Le 12 février 47, c'est le tremblement de terre, puisque c'est le premier défilé Christian Dior qui réinvente la silhouette, comme il le fera en fait quasiment à chacune de ses nouvelles collections, New Look après New Look. Les commissaires de cette exposition, Christian Dior, sont Florence Muller et Olivier Gamet. La très impressionnante scénographie est signée Nathalie Crinière. Son nom est bien présent dans la communication des arts décoratifs. Alors là, je n'ai pas compté non plus le nombre de pièces, là, vraiment. La nuit, la journée et la semaine n'y suffiraient pas. Est-ce qu'on va suivre, tiens, Florian Guettet pour ouvrir ce premier tour de table?
Alors, je ne suis pas sûr que je sois le meilleur guide.
C'est pour ça, c'est ça l'intérêt. Vous êtes le meilleur guide pour la plupart des expositions,
oui,
Florian.
Bien sûr. Donc une exposition fleuve, hein, qui je pense est aussi riche que peut l'être aujourd'hui la Maison Dior, avec effectivement...
c'est dire.
Avec pléthore de d'œuvres, 300 robes, des meubles, des bijoux, des parfums, des vidéos, des œuvres d'art, des accessoires et même une brodeuse vivante en live.
Et des publics, du public.
Et du public.
Énormément
de public.
Difficile de voir quoi que ce soit.
On ne fait plus la file d'attente parce que ça aurait été difficile.
Donc... plus la file d'attente, vous?
Ah non. Moi,
vous y retournez pas, vous voulez dire.
Bon. Donc c'est une exposition sur Christian Dior. En fait, c'est une exposition sur la maison Dior, puisqu'il y a beaucoup de pièces qui sont de Christian Dior, effectivement, mais aussi beaucoup des 6 directeurs artistiques qui sont derrière lui, entre Galliano, Raf Simons ou Yves Saint Laurent. Donc le parcours, c'est une très grande exposition, il faut prendre son temps pour le voir. Ça commence par une sorte de frise biographique qui va très vite balayer la vie de Christian Dior, pour ensuite passer sur une sorte de séquence sur les rapports entre l'art et la création chez Christian Dior. Donc ça peut être à la fois son époque de sa galerie, puisqu'il a été galeriste, et pour une fois il n'avait pas son nom, puisqu'il n'avait pas le droit de mettre son nom dans la galerie. Et ensuite les rapports évidemment avec la photo de mode, où là on trouve les Richard Avedon, les Irving Penn, les William Klein. Et puis l'art comme source d'inspiration. Passé ça, on a une sorte de long couloir, une sorte de colorama, très long couloir, avec plusieurs centaines de pièces, une sorte de bric-à-brac arrangé avec des vêtements, des maquettes, des parfums, des chaussures, des accessoires. Tout ça épinglé dans des vitrines, rassemblé par couleur et organisé selon un long dégradé. On passe effectivement toute la gamme chromatique. Alors c'est très intéressant visuellement pour le premier effet, mais comme finalement, et je crois que c'est un esprit pour après la mode, en surface ça fait son effet, mais on a du mal à rentrer dedans. Et c'est dommage parce que du coup on se retrouve un peu noyé alors qu'il y a des pièces absolument incroyable dedans, notamment un chapeau palette de peinture ou des genouillères. Je ne savais pas que Christian Dior avait fait des genouillères. Il a fait des genouillères en sorte de carapace de tortue grise. Donc c'est des petites choses qu'il faut aller voir, il faut aller piocher, il faut passer du temps pour faire ça. Mais je veux dire que la présentation aide pas forcément à apprécier tout ça. On regarde sur une sorte de vision un peu syncrétique, un peu d'ensemble et un peu de surface. Et c'est un peu ce que je reproche finalement à tout ce qui reste de l'exposition et qui va venir après. On est beaucoup dans une sorte de décorum et finalement on n'en apprend pas toujours sur les coulisses, sur la vie intime, sur les inspirations. Et moi je crois que je cherchais un peu ça. Donc j'étais beaucoup plus déçu par la deuxième partie jusqu'à un final qui m'a laissé quoi.
Alors quoi ? On va rester là-dessus, mais vous nous le direz tout à l'heure, Florian Guettet. C'est peut-être le problème de ces expositions pléthoriques. On a les mêmes discussions sur les expositions de peinture. Après tout, hein, quand il y en a trop. On arrive, qu'est-ce qu'on retient ? Très peu de choses, et c'est certainement que si on fait un sondage, chaque visiteur aura repéré tel ou tel. Alors, c'était les genouillères tortues pour Florian, et ce sera...
Une violette à fourrure.
Une top violette à fourrure, ça c'est pour Anaël, Sandra ?
Non, j'ai pas...
Non, vous n'avez rien vu. Bon, non, on y revient dans un instant. Anaël Pijat. Réfléchissez à ce qui vous a marqué, finalement. Anaël.
Ce que j'ai trouvé très réussi dans cette exposition, au-delà, et enfin, non, peut-être, ce qui m'a semblé le plus réussi dans cette exposition, c'est que moi, j'ai été vraiment emportée. Je trouve que c'est assez difficile, en tout cas en France, j'ai toujours remarqué que c'était difficile de faire des expositions de mode réussies. Je trouve qu'il y a souvent un côté un peu
ça
morbide.
Ça commence quand même.
Ça commence, mais quand
pas
on voit
très longtemps, quand
Victoria,
on va à Londres, oui,
voilà, au V&A. Albert, au V&A à Londres.
Ça fait longtemps qu'ils savent le faire.
C'est extraordinairement vivant quand on voit Vivienne Westwood, quand on voit... Bon, ici, il y a toujours... Enfin, en France, il y a souvent un côté... J'ai été souvent frappée par un côté un peu morbide des expositions de mode. C'est l'absence des corps. C'est vrai pour l'absence des bijoux dans Médusa, dont on parlait à l'instant. Là, il y a un côté vraiment fantastiquement vivant que j'ai trouvé très réussi dans cette conception de l'exposition entre d'abord cette partie thématique et ensuite les monographies. J'ai trouvé aussi très intéressant comme exercice pour l'œil le fait d'avoir d'abord la partie thématique où tout est un peu mélangé, tous les créateurs sont un peu mélangés et où finalement
oui, parce que Christian Dior, c'est évidemment la maison et donc aussi les créateurs qu'on travaille avec.
Les différents créateurs artistiques, directeurs artistiques, que sont donc d'abord Christian Dior, puis Yves Saint-Laurent, puis Marc Bohan, puis Galliano, puis Raph Simons et Maria Ferré, Maria Grazia qui rit aujourd'hui. Et donc l'œil s'entraîne à chercher, je trouve, dans cette partie thématique qui appartient, quoi appartient à qui. Et finalement tout s'éclaire dans la deuxième partie qui est constituée de ces monographies par créateur, enfin par directeur artistique. Et je trouve que les éléments se rassemblent et prennent forme d'une manière qui, moi, en tout cas, m'a beaucoup intéressée. L'autre chose que j'ai trouvé très réussie, c'est ce rapport à l'art de Christian Dior, qui est montré d'une manière assez diverse, finalement, puisqu'il y a d'abord l'évocation de cette galerie qu'il a fait avec Pierre Colle et avec Bonjean. Il n'y avait pas son nom parce que son papa ne voulait pas qu'on mette le nom de la famille dans la galerie. Mais néanmoins, Christian Dior a fait partie de toute la vie, scène artistique des années 20 à Paris, le bœuf sur le toit, tout ça.
Coulé par la crise de 29.
On voit là, dans cette première partie, un certain nombre d'œuvres qu'ils ont montrées. Et on se rend compte que la galerie défendait à la fois des artistes très connus déjà à l'époque, Matisse, Picasso, Dufy, mais aussi des plus jeunes qui étaient leurs amis, qui étaient donc on les voit tous là. Il y a quelques œuvres qui évoquent ça. Et puis dans le parcours de l'exposition, on voit aussi un certain nombre d'œuvres qui ne sont pas liés à la galerie de Christian Dior, mais qui sont montrés en dialogue avec des tenues, de manière assez convaincante. Par exemple, le tableau de Louis-Léopold Boilly, La famille Gohain, qui est montré en face d'une robe qui a l'air comme ça d'une robe du 18e. Il y a une famille espagnole d'Andrés Parladé qui est montrée en face d'une tenue dans laquelle on voit une sorte de torero jaune qui est montrée en face d'une tenue qui ressemble aussi à une tenue de torero dans des jaunes qui se rapprochent de ce tableau. Alors, d'après ce que j'ai compris, ce ne sont pas des citations directes, c'est l'œuvre des commissaires. Mais finalement, c'est assez singulier, et Olivier Gabay le répète souvent, de constater que, à la différence de beaucoup d'autres, lui, Christian Dior, est passé des arts à la mode, et non l'inverse.
Non l'inverse. Sandra Dancourallet, est-ce qu'il y a une pièce qui vous est revenue ? Ça y est, vous avez choisi. Faites forte marché.
Ce sont les Inspirations d'Afrique de Galliano. J'aime beaucoup. Voilà, ces robes. Il faut être un peu dénudé dessous, mais...
Mais ça ne vous dérange pas. Bon, d'accord.
Non, et justement, cette inspiration d'Afrique, par exemple, je rebondis sur ce que dit Annelle sur le rapport art et mode, est très bien montré avec des prêts quand même assez exceptionnels du Quai Branly. En fait, j'ai trouvé quand même cette exposition assez réjouissante. Alors, peut-être que je suis bon public, mais vraiment, c'est quand même une exposition féerique, très dense, qui s'étale pour la première fois... Il faut le dire, sur les espaces dédiés à la mode, donc les deux ou trois étages, je ne sais plus, à force de monter les escaliers, et la grande nef du musée, donc en tout près de 3000 mètres carrés, c'est assez réjouissant, et c'est assez... en fait, c'est féerique, vraiment. Il y a quelque chose de l'ordre de la magie, et le titre de l'exposition, c'est bien Christian Dior, le couturier du rêve, ça porte bien son nom, c'est exactement ce qui se passe. Moi, j'avais l'impression d'avoir 3 ans et demi et de...
Enfin, voilà, on est tous princes ou princesses dans cette exposition. Hein.
D'être dans un
Florian
Guettet,
vous n'êtes pas d'accord, vous. Hein, vous avez vu du cauchemar dans ce rêve.
C'est une série comme au moment des fêtes de Noël d'un supermarché. Enfin, il y a un truc très artificiel.
Ça vous rappelle des grandes enseignes du boulevard Haussmann, ça vous voulez dire?
Exactement.
Ouais, j'ai l'impression. Sandra.
Oui, donc j'ai beaucoup aimé ce côtoiement, je ne sais pas comment le dire, des œuvres, des tableaux, des sculptures qui ont pu inspirer Dior, qui ont fait partie de sa galerie, puisqu'on découvre, moi je redécouvrais qu'il était galeriste, avec cette exposition en 1933 qui a mis en avant les surréalistes et qui est en fait une exposition très importante dans l'histoire du surréalisme, qui mettait à côté le buste, vous savez, le fameux buste rétrospectif de femme de Dali, à côté de Duchamp, de Max Ernst, de Man Ray, des tableaux de Tanguy, voilà, et ça c'est montré dans l'exposition, c'est assez... C'est vraiment intéressant. Et puis, tout au long de l'exposition, on voit voilà, les différentes affinités artistiques avec des très beaux prêts, des Claude Monet quand il s'agit de la question des jardins, des prêts du musée du Quai Branly lorsqu'il s'agit des voyages et notamment de l'inspiration d'Afrique. Je l'ai déjà dit. Voilà, toutes ces thématiques sont enrichies d'œuvres jusqu'à la dernière salle.
Ah, qu'a laissé Florian quoi ?
Et juste,
on va nous le dire pourquoi.
Pardon.
Non, mais je vous en prie.
Et juste pour finir, maintenant que j'ai dit que j'ai été emballée, non, il y a quelque chose qui m'a vraiment gênée, et c'est là où je rejoins Florian dans ce que vous disiez au début. Il y a un moment donné où on tombe sur cette grande salle qui représente donc l'avenue Montaigne, dans la nef, on pénètre à l'intérieur de cet immeuble. Enfin, et là, il y a des grandes vitrines qui sont censées montrer les patrons de couture, donc un petit peu l'histoire et l'ambiance des petites mains, en fait, qui sont derrière toute cette féerie, justement. Et là, je vous rejoins parce que il y a simplement cette salle et il y a deux pauvres femmes couturières qui font une démonstration mais qui sont de leur savoir-faire mais qui sont parqués au fond et alors à côté du faste du reste. Alors là j'étais un peu voilà, tout d'un coup là la féerie retombée.
On appelle se tirer une balle dans le pied.
Oui, il y avait un côté coulisse mais un peu malvenu.
Ouais.
Mais alors c'est très étrange parce que j'ai aussi trouvé ce moment un peu bizarre.
Il y a quelque chose alors, faut le dire.
Mais il y a un très bon film que j'ai vu, je crois que c'est l'année dernière, de Frédéric Cheng, qui s'appelait Dior et moi, et qui racontait le premier défilé de Raf Simons qui avait beaucoup marqué les esprits parce qu'il avait défilé dans un décor de fleurs fraîches et Christian Dior, c'est les fleurs, la femme fleur, etc. Et dans ce film, on voit plusieurs choses. On voit une part de son rapport à l'art, parce que lui a fait fabriquer des tissus avec un tableau abstrait de Sterling Ruby, donc pour prolonger ce qu'on disait tout à l'heure, c'est très intéressant. Et là, on voit vraiment la fabrication, l'élaboration de son projet, enfin de son travail. Et puis, on voit énormément aussi toutes ces femmes, toutes les couturières qui travaillent autour de lui, et tout l'effet de maison, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, qui est absolument passionnant, et qu'on a très envie de voir dans une exposition comme celle-là. Donc effectivement, j'ai l'impression que c'est une tentative qui était peut-être pas aussi réussi que le reste, mais pourtant le sujet en lui-même que l'on évoque est vraiment intéressant.
Florian Guettet, on va arriver vers ce final. Mm-hmm. Il y a un suspense depuis tout à l'heure, mais il y a d'autres commentaires avant, j'imagine.
Oui, il y a d'autres commentaires. Sur ces rapprochements, moi je pense que, enfin, des fois j'ai trouvé les rapprochements un peu faciles quand même. Par exemple, vous parliez du Trianon, et c'est vrai qu'ils ont pris en fait un tableau qui fait partie des collections des Arts Déco, donc il n'y a certainement rien à voir.
Oui, non, mais.
Il y a aussi une sorte de comparaison. Mais
en fait. Des icônes reconnaissables, comme Elisabeth Vigée-Lebrun.
Et d'autant que. C'est juste que si ce principe on l'applique, il y avait peut-être des choix plus audacieux à faire. Et des croisements un peu plus audacieux. Et je pense notamment à un truc très clair dans cette salle Trianon, hein, qu'elle s'appelle comme où on voit un Raf Simons qui a en fait comme bombé en fait les cuisses d'une robe, alors pas à la hanche, mais à partir des cuisses, ça fait une sorte de Vénus Callipyge. Et en fait, si on continue un peu plus loin dans les influences, donc près des influences africaines, il y a des influences égyptiennes, et il y a notamment effectivement des belles pièces du Quai Branly et une sorte de statue qu'on attribue en disant voilà, c'est une statue de Néfertiti. Et elle reprend exactement cette même forme. Et je trouvais ça vraiment intéressant. Pourquoi aussi ne pas montrer des tableaux de Dali avec des ustensiles de tels que les montres,
etc.
Qui auraient pu aussi croiser et offrir de nouvelles lectures. J'ai trouvé que le sens ne circulait pas assez, que tout était très compartimenté. Voilà. Bon, ça, c'était une impression. Alors après, sur cette forme, en fait, d'abord, sur la féerie, je vais quand même expliquer, parce qu'effectivement, on a envie, mais moi, c'est vrai que je résiste foncièrement à ça.
C'est mon côté princesse.
Moi, je n'aime pas les guirlandes de Noël, je n'aime pas les illuminations, etc. Donc, je suis, une sorte de pisse-froid.
Donc, vous avez souffert, là.
Donc, oui, j'ai souffert. D'autant que j'ai trouvé qu'il y avait une forme de facilité, parfois, à mettre ce genre de jardin, de papier. Ça faisait très cheap. Moi, j'ai pas été très emballé par ça. Quand jusqu'à cette dernière salle dont on va bientôt parler.
Oui, l'heure tourne.
On voit aussi beaucoup de cette sorte de baroque réinterprété qu'on voyait très bien dans les magasins d'ameublement des années 2000, là aussi avec des matériaux pauvres, etc. Bon, je trouvais que c'était pas forcément à la hauteur de ce que proposait Dior, qui était quand même d'une sobriété, d'une élégance beaucoup plus raffinée que ça. Et alors sur la fin, voilà. Donc il y a effectivement d'abord ce sas sur l'atelier. En fait, ma première impression, elle a été très bonne, moi, sur cette salle de l'atelier, parce que j'ai trouvé ça blanc et je me suis dit, mais c'est génial, on a notre robe de mariée. En fait, j'ai compris cette salle comme une robe de mariée. Mmh. C'est-à-dire, c'est pur, effectivement, c'est du tulle, c'est de la toile blanche. Et j'ai trouvé ça génial de dire, mais on finit l'expo en revenant au départ, en rendant hommage à ces mains, ce qu'on les appelle les petites mains. Et puis, cet effet passé, effectivement, je vois la brodeuse qui est un peu reléguée en fond de salle, qui essaye de travailler en expliquant en même temps dans une sorte de pédagogie un peu voilà. J'ai trouvé que ça faisait un peu performance lors des vernissages, quoi, un truc un peu accessoire. Et moi, je me serais bien arrêté ici pour l'exposition. Et ensuite, il y a la salle de bal, ce que j'appelle la salle de bal. Et là, j'ai trouvé ça d'une vulgarité incroyable. En fait, j'ai trouvé ça spectaculaire. Alors, ça scintille comme la Tour Eiffel qui scintille à toutes les heures données. Il y a vraiment ça, hein, une sorte de.
C'est vrai qu'il y a des robes de pluie, sol au plafond.
Il y a des pluies d'étincelles d'un coup, et c'est fait pour que tout le monde prenne des selfies. Et tout le monde prend des selfies. Comme ça leur fait la com gratuite. Enfin, il y a quelque chose, moi, que j'ai trouvé très vulgaire dans ce côté-là. Et ça m'a posé la question. Pardon. Et ça m'a posé la question de me dire, mais finalement, si on fait une exposition sur Dior et sur la maison Dior, c'est-à-dire sur la filiation, sur la mémoire Dior, qu'est-ce qui reste aujourd'hui de cette mémoire? Quand, dans les années 47, il redessine effectivement cette silhouette de la femme qui va reféminiser, qui va donner une forme de d'élégance, de chic parisien qui va s'exporter, qui va devenir une forme de patrimoine français. Mmh. Et aujourd'hui, finalement, on se retrouve dans cette salle finale qui est censée être le bouquet final et qui starifie, glorifie et qui finalement ressemble plus à l'univers du luxe qu'à l'univers de la couture. Mmh. Et cette différence-là, ce glissement-là, m'a dérangé.
Alors, un tout petit commentaire.
Non, c'est vrai qu'on finit sur cette imagerie, en fait, Dior à la fin, du rêve, je suis d'accord. Mais ceci dit, pendant l'exposition, et je m'arrête là, je trouve que c'est souvent assez bien soulevé. On voit toute l'histoire de quand Yves Saint Laurent arrive, des robes Lolita, Zazie, Motard qui sont inspirées voilà, de Marlon Brando. Donc c'est dit pendant l'exposition. C'est peut-être dommage, effectivement, de finir par trop de féerie.
Mais je trouve la volonté d'en mettre plein les yeux quand
moi,
même
j'ai pas
pour finir. Annaëlle.
Non mais moi j'ai pas boudé mon plaisir.
Bon, ben dans voilà. Salle de bah, écoutez, je crois
voilà
qu'ils sont
conclusion.
Beaucoup de gens qui ne boudent pas leur plaisir.
Oui, indépendamment du fait que sur la présence de Christian Dior aux Arts Déco, il y a une vraie histoire qui se trouve derrière. Mais ça, il nous faut une autre émission pour la raconter.
Eh bien, écoutez, on a jusqu'au 7 janvier pour refaire une émission sur Christian Dior, couturier du rêve, au Musée des Arts Décoratifs de Paris. Et puis alors, c'est pas un catalogue, mais un très beau livre, forcément. Édité pour l'occasion par les Arts Décoratifs.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
Troisième sujet de cette dispute art plastique pour une exposition qui ferme ses portes le 17 septembre. Elle, donc, précipitez-vous si ce n'est pas déjà fait. Allez à la Maison Rouge, puis vous savez qu'il n'y en a plus que pour un an. Donc, le compte à rebours est enclenché pour cette maison d'Antoine de Galbert. C'est une exposition consacrée à Hélène Delprat sous le titre I Did It My Way, qui est avec elle, évidemment, tout un programme.
Un médaillon, un gros ceinturon, comme un garçon, moi je suis têtu. Et bien souvent, moi je distribue des corrections, faut faire attention, comme un garçon. Pourtant, je ne suis qu'une fille. Mais quand je suis dans tes bras, je ne suis qu'une petite fille perdue quand tu n'es plus là. Comme un garçon, moi j'ai ma...
Sylvie Vartan, qu'on entend dans la Maison Rouge. D'abord, on a envie de l'entendre, cette chanson, et puis parce que le texte de cette chanson, célébrissime chanson, est signé Roger Dumas, qui était le mari d'Hélène Delprat, disparue il y a quelque temps déjà. Hélène Delprat, alors, voilà un parcours très atypique, pour le moins, de cette artiste très vite reconnue, à partir du milieu des années 80, et qui a voulu prendre du recul, qui a quitté la galerie d'Adrien Mag, c'était en 95, pardon. Elle se consacre à partir de ce moment-là à des vidéos, à des installations, elle délaisse la peinture, et puis elle va attendre 2014 pour proposer une nouvelle exposition de peinture chez Christophe Gaillard. Elle a entièrement pensé cette exposition à la Maison Rouge, cette exposition que l'on peut voir en ce moment. Anaëlle Pigeat, pour commencer.
Je connaissais les tableaux d'Hélène Delprat chez Christophe Gaillard, vus comme ça dans toutes sortes d'endroits. J'avais vu aussi d'autres éléments. Je pensais que je les aimais moins.
C'est
en
un
voyant
bon début,
cette
ça.
Exposition, je trouve que, peut-être d'ailleurs par le fait de cette chanson ou par le fait d'une sorte d'alchimie, tout l'ensemble de son travail prend une cohérence extrêmement singulière et une liberté extrêmement singulière qui sont assez à l'image de ce qu'est la Maison Rouge et de la liberté d'Antoine de Galbert dans tous ses choix artistiques, tout ce qu'on a vu depuis le début. Hélène Delprat parle un peu d'une sorte de montage de film pour tous les éléments de son travail dans lequel il y a des objets, il y a des tableaux, il y a des films, il y a des voix. C'est vraiment exactement ce qui se passe. Alors peut-être faut-il décrire un peu comment ça se passe. On rentre, alors le début c'est assez simple,
oui.
On rentre dans un long couloir tapissé de miroirs, comme ça, enfin de faux miroirs, un peu comme dans une boîte de nuit, au son d'une voix qui dit « c'est l'inconnu qui fait peur ». tout un programme.
Une vérité arrive, essentielle.
Absolument. On arrive ensuite dans une grande salle qui... Non, pardon. D'abord, on est accueilli par une figure d'Hélène Delprat, une sorte d'effigie en cire, je crois, en résine, quoi, non, en plastique. J'avoue, je ne sais pas quoi.
Hyper réaliste.
Voilà, exactement.
On s'y croit. Qui nous
accueille comme ça et qui signifie, et on le sentira beaucoup dans la suite du parcours, que vraiment, Hélène Delprat, c'est une figure, c'est un personnage, et c'est un personnage extrêmement travaillé, mais qui, à la fois, montre une sorte de détermination folle et aussi une forme de, je ne sais pas si humilité est le bon terme, mais en tout cas qui tient une position vraiment sur un fil et très subtile.
C'est une humilité présente.
C'est une humilité présente. C'est une humilité présente, absolument. En tout cas, on voit ensuite ces immenses tableaux qu'elle a fait récemment, depuis le début des années 2010, qui sont absolument époustouflants, qui sont d'immenses compositions avec des camailleux, brun, or, corail. Ce sont des peintures dans lesquelles on cherche des histoires parce qu'on y voit des petites figures de diablotins, des figures de singes en redingote, des gladiateurs romains qui se battent, on ne sait pas très bien comment, ni contre qui, ni contre quoi. Et finalement, on y cherche des histoires parce qu'il y a beaucoup d'histoires et de narrations dans les œuvres d'Hélène Delprat. Mais ce qui est absolument magnifique, c'est que ces histoires se perdent dans les formes des tableaux et qu'on est vraiment, absorbé par l'intensité du rose corail, par la manière dont les fleurs qui ressemblent à des odilons redonds dessinent des yeux, etc. Je fais une mini parenthèse pour saluer le rôle de Christophe Gaillard dans cette redécouverte dont vous avez parlé, parce que je crois que c'est vraiment, donc Christophe Gaillard, son galeriste, qui, d'après ce que j'ai compris, l'a remise au travail après de longues années, ou en tout cas, pas la remise au travail, parce qu'elle a continué à travailler, mais en tout cas, a rendu public ce travail qui ne l'était plus, a rendu visible ce travail qui ne l'était plus, et je crois que c'est vraiment là la tâche d'un galeriste, et c'est une chose qui mérite d'être saluée. Donc, poursuit le parcours. Ensuite,
on va le poursuivre avec vos camarades.
On poursuit avec les camarades.
Comme ça,
d'accord.
On fait tourner la parole. Sandra, donc on va prendre le relais magnifiquement.
Alors, une fois qu'on. Disons qu'après ce mannequin hyper réaliste dont vous parliez, donc on reconnaît l'artiste à son crâne rasé, il faut le dire, c'est ce à quoi on reconnaît Hélène Delprat et sa tenue de Charlie Chaplin, si je puis dire. Ensuite, on rentre donc dans ce monde étrange et onirique de l'artiste, avec peinture, sculpture, vidéo, décor. Il faut dire que tout est mêlé dans la grande courbe de la grande salle de la Maison Rouge. Et toutes les œuvres sont reliées par un jeu de son et lumière. Il y a carrément une poursuite lumineuse qui est en place sur des rails. Et l'idée, j'imagine, est que l'ensemble s'offre à nous comme une seule et même installation.
Quand vous dites j'imagine, ça veut dire que ça n'a pas fonctionné sur vous.
En fait, je vais vous dire, j'ai beaucoup d'appétence pour le travail et la personne d'Hélène Delprat, et notamment ses peintures. Et là, cette chanson que vous nous avez gentiment passée juste avant, qui va me rester en tête jusqu'à ce soir, merci.
Voire demain matin.
Voilà. Comme un garçon, j'ai les cheveux longs. Moi, je n'en pouvais plus. C'est-à-dire, vraiment, ça m'a vraiment gâché la lecture. Et de manière plus sérieuse, ça m'a empêché de voir, de regarder certaines œuvres. Et notamment la peinture d'Hélène Delprat, que je trouve assez incroyable. Je pense que sans bande-son, elle est néanmoins très prolixe. Elle est tout aussi irrévérencieuse en fait que ses décors et ses films. Elle a ce pouvoir. Et moi, je me suis dit, même si j'ai bien compris que le but de l'exposition, c'était de montrer qu'Hélène Delprat, et on va y revenir, j'imagine, a une autre pratique que celle de peintre, mais néanmoins, la peinture, j'aurais aimé la regarder en tant que telle. Et c'était comme si l'artiste avait peur d'être une peintre. Enfin, c'est étrange.
On n'avait pas envie qu'on la voit. On n'a plus envie qu'on la voit que comme une peintre. C'est ce qui a expliqué son départ.
Mais moi, ça m'a gâché la lecture de ses œuvres, alors que j'adore justement tout ce mélange onirique de sortes de monstres, de satyres, au milieu de taches dorées, pailletées, etc. Donc, il y a une sorte d'ambiguïté entre l'ornemental et le sujet, la peinture qui avoue sa surface et qui ajoute justement à l'inquiétude de ces paysages fantastiques qui sont représentés. Mais j'ai beaucoup aimé la suite, on en parlera si vous voulez, mais cette chanson m'a gâché la vision.
A brouillé votre vision, Sandra. Florian Guettet, Hélène Delprat.
Oui, alors, J'adhère sans aucun compromis à cette exposition pour des raisons presque équivalentes à ceux qui l'auront détestée. C'est-à-dire que
j'ai dit que je n'aimais pas.
Hein. Je ne ciblais pas.
Mais c'est vrai que elle a une manière de bien mal faire. Elle a une manière d'assumer son mauvais goût, mais avec une justesse folle. Et si on continue le parcours qu'on dessinait jusqu'ici, on arrive après une sorte de portail, on va revenir aussi sur la signification du portail, mais sur ce portail dans une sorte de couloir des horreurs avec des bibelots, avec justement ces peintures qu'elle décrit elle-même comme moches, qui sont notamment qui représentent notamment Burger, Donkey Burger, qui est donc une sorte d'alter ego du mauvais goût. Mais c'est tellement juste dans son mauvais goût que elle assume une position très contemporaine, très singulière vis-à-vis de ces des conventions de l'art. Et c'est quelqu'un qui effectivement va manier les références avec la modernité, avec le cinéma, avec les autres arts, d'une façon tellement non conventionnelle qu'elle est incomparable. Et on peut, c'est une expo qui, littéralement, ne ressemble à rien, mais à rien d'autre, comme elle ressemble à rien. Et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, elle a voulu répondre à une demande de rétrospective sans faire une rétrospective. Et donc, ça part quand même, il y a une cohérence, ça part d'un événement biographique qui est qu'elle abandonne sa maison familiale et que, d'ailleurs, quand elle part, elle ferme le portail s'écroule. Et je pense que cette exposition pose cette question-là de quel est le patrimoine ou l'héritage imaginaire qu'on garde quand le lieu, quand la matérialité n'est plus. Et là, aux alentours de 60 ans, je crois qu'elle a 60 ans, donc c'est une sorte plus de bilan que de rétrospective. Mais moi, je me suis sentie comme dans un espace plastique qui est son espace mental. Et on le voit notamment dans les dessins radiophoniques, par exemple, qui sont dans ce fameux couloir des heures, où on voit, mais elle note tout ce qui lui passe par la tête. Des idées, des dates de spectacle, des photos, des dessins, véritablement. Il y a une forme comme ça de fulgurance et singularité. C'est quelqu'un qui est pour moi peut-être la dernière des libertines, mais la libertine pur jus, premier jet, c'est-à-dire antidogmatique, contre la religion, contre les conventions, contre le qu'en dira-t-on, contre le respect de l'histoire, et évidemment aussi dans les mœurs et dans une forme d'érotisme, puisqu'elle a fait beaucoup de dessins érotiques qui ne sont pas présentés là, d'ailleurs.
Et vous le regrettez.
Et je le regrette. Donc c'est vraiment une libertine. Et puis c'est une femme d'une grande singularité, je vais m'arrêter là.
Ah, pardon, c'est vrai que le temps file. Hélène Delprat, figure du XVIIe siècle.
En fait, ce sont les vidéos, moi, qui m'ont donné le fil de cette cohérence, enfin de cet ensemble, de cette cohérence du bienfait mal fait dont parlait Florian à l'instant. Parce que quand on voit, par exemple, les travaux et les jours, ou bien les fausses confidences qu'on voit à la fin de l'exposition, c'est une succession de les fausses conférences, oui, mais justement. c'est une succession de petites scénettes dans laquelle on la voit, qui parle successivement de Buzz Aldrin sur la lune, de Marcel Schwab qui se rasait jusqu'au sang, d'une scène de tournage de La Belle et la Bête de Cocteau qu'elle se met à imiter, elle se met à faire le mime. Et en fait, effectivement, c'est sa pensée en image. Et finalement, à partir de ces petits dispositifs-là, et c'est intéressant que le Works and Days ait été montré sur un petit plasma, sur un petit écran au début de l'exposition, comme un carnet de notes quasiment, un peu comme les dessins radiophoniques qui sont montrés à la fin de l'exposition et qui bouclent cette boucle-là.
Sandra, t'as encore allé.
Oui, mais en fait, donc moi, cette chanson m'a un peu gâché. Vous l'avez compris, le début.
Ah, vous y revenez,
en fait, c'est juste que ça ne fonctionnait pas. Mais ceci dit, à partir du moment où on passe ce portail en polystyrène, en fait, un peu 18e siècle, et qu'on est face à cette vidéo qui est absolument géniale, Comment j'ai inventé Versailles, où on voit sur une musique pourtant très présente de Lully, là, ça m'a pas dérangé. Là, ça fonctionnait. Je veux juste dire qu'au début, ça ne fonctionne pas. Il y avait une sorte d'artificialité qui ne fonctionnait pas. Ça n'est que mon avis, mais ensuite je trouve ça génial. Comment j'ai inventé Versailles, donc là on y va, il y a cette vidéo, elle porte une perruque en accordéon de papier assez génial, et la fin avec sur un motif de tartan, vous savez, ce motif écossais voilà, qui devient papier peint, il y a des fausses portes en fourrure, et on retrouve justement, et là ça a lieu d'être, toutes ces petites peintures qui sont un peu comme la période vache de Magritte, vous savez, de Hélène Delprat, qui s'appelle toute cette série Où est la peinture, et en fait voilà, je trouvais ça pas mal.
La réponse est là. 10 secondes, Anaëlle Pujat, 10 secondes
sur le son, je suis pas tout à fait d'accord avec vous. le Comme un garçon, le son est très travaillé, on part très fort avec Comme un garçon, on réduit avec Lully qui marche sur les pieds de Comme un garçon, et on diminue avec un son silencieux dans un casque, qui sont le musée des titres dit par Jean-Louis Trintignant, et qui deviennent une sorte de musique silencieuse et de l'esprit.
Florian, 10.
Oui, juste dire que c'est aussi une brillante idiote. Et cette forme d'idiotie-là est très précieuse parce qu'elle permet au moins d'échapper à tous les discours théoriques, comme Joanné l'avait dit avant. Et moi, je me suis senti presque exclu de l'exposition quand on arrive, en fait, dès l'ouverture et qu'elle nous dit « j'ai pas envie d'en parler ».
Hélène Delprat, I did it my way, on a compris, hein, à la Maison Rouge jusqu'au 17 septembre. Catalogue de l'exposition coédité par la Maison Rouge et Fage Édition. On y trouve notamment un texte formidablement brillant, c'est normal, de Corinne Rondeau, notre camarade en dispute. La galerie Christophe Gaillard propose elle aussi une exposition Hélène Delprat qui ouvre ce samedi 9 septembre et qui sera visible jusqu'au 21 octobre. Et on conclut tout en vitesse avec le jeu de la dispute. D'abord, Grégoire Desfiores et le rappel de la question d'hier.
De quel membre de sa famille le héros du film doit-il faire le deuil? La réponse était sa mère.
Oui, on ne sait plus de quel film il s'agissait, mais c'est pas grave. Ce soir, on fait gagner des places de cinéma pour un autre film, Napalm, celui de Claude Lanzmann, qui est sorti aujourd'hui dans les salles. La question.
Quel est le titre du précédent film réalisé par le documentariste?
Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Et demain, faisons vite aussi une dispute littérature avec Philippe Chevrier, Jean-Christophe Brianchon, Grégoire Leménager, à notre affiche Underground Railroad de Colson Whitehead, Survivre de Frédérica Amalia Finkelstein et Tabac, Tabac de Patrick Deville.